Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Priez en Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant de commencer le cours, je voudrais vous rappeler que j'ai publié sur le site internet donc le programme des retraites pour 2021. Donc il y aura 5 retraites. Au moins celles qui sont programmées, j'en rajouterai peut-être d'autres si nécessaire pour des groupes de gens qui peuvent être intéressés. Donc il y en aura une pour la semaine sainte du 29 mars au 4 avril, puis ensuite 26 avril, 1er mai, 7 juin, 12 juin, 13 septembre, 18 septembre, 18 octobre, 23 octobre. Aussi j'ai encore 2 places ou 3 places pour la retraite que je prêche du 19 au 24 octobre, donc cette année, non, à la fin de ce mois. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, tâchez de me contacter au plus tôt. Donc nous continuons le commentaire des Pères de l'Église sur l'Évangile selon Saint Luc. Nous en sommes au chapitre 6, verset 26, sur le polycopier qui contient les commentaires des chapitres 6 à 10 de Saint Luc à la page 4. Donc commençons par les versets 26 à 30, c'est là où nous en sommes, le chapitre 6 de Saint Luc. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Mais à vous qui m'écoutez, je dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui vous frappe sur une joue, présentez encore l'autre, et à celui qui vous enlève votre manteau, n'empêchez pas de prendre aussi votre tunique. Donnez à quiconque vous demande, et à qui vous enlève ce qui est à vous, ne réclamez point. Il faut faire attention surtout à ce premier verset qui est très important. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Notre Seigneur parle à tout le monde, mais c'est surtout valable pour les prêtres. Malheur au prêtre qui cherche à plaire à ses paroissiens. Il va vite être complètement muselé. Un prêtre doit dire ce qu'il doit dire, même si ça ne plaît pas aux paroissiens. Saint Curélard disait, même s'il est sûr d'être mis à mort en descendant de chair, cela ne doit pas l'arrêter, il doit continuer de dire ce qu'il doit dire. Je pense que c'est une des façons d'expliquer les catastrophes de Vatican II. Vatican II, c'est un peu ça. Vatican II a voulu plaire au monde, a voulu dire au monde les choses que les gens du monde voulaient entendre. Les prophètes de l'Ancien Testament ont eu des tas de problèmes avec le peuple élu, justement, de l'époque, justement à cause de ça, parce que les Juifs demandaient à leurs prophètes, donnez-nous, dites-nous des choses agréables à entendre. Dites-nous des choses faciles à entendre. Vous annoncez toujours des catastrophes. Et beaucoup des prophètes se sont fait massacrer par les Juifs, justement, parce qu'ils remplissaient leurs devoirs. Donc si je cherche à plaire aux hommes, je ne puis prétendre être le serviteur du Christ, disaient les pères de l'Église. Le prédicateur, disent-ils, c'est au milieu de la page 4, le prédicateur qui recherche ses applaudissements plutôt que la conversion de ses auditeurs et les considère comme la fin et l'objet de son ministère sera condamné, parce qu'il recherche plus la gloire des hommes que le progrès dans la gloire de Dieu. Et prenant comme fin la vaine gloire de ce monde, il détruit les âmes qui lui avaient été confiées. Les prophètes ont prophétisé le mensonge, et les prêtres ont battu des mains, et mon peuple a aimé de pareilles choses. Qu'arrivera-t-il donc à son dernier moment? Le prophète Jérémie qui disait ça. Ce que les pères de l'Église disent ici, c'est valable pas simplement pour les prêtres, mais aussi pour les parents. Cherchez pas à plaire à vos enfants. Les parents qui cherchent constamment à plaire à leurs enfants, à dire des choses qui plaisent aux enfants n'arriveront jamais à éduquer correctement les enfants. Il faut dire ce qu'il faut dire, ce qu'on doit dire. Et je dis toujours aux enfants, quand je les confesse, si votre maman ou votre papa vous dit, ben écoute, tu peux faire ce que tu veux, ça m'est complètement égal, ça veut dire que votre maman ou votre papa ne vous aime plus. Donc, qui aime bien, châtie bien, dit le dicton. Je crois que c'est le livre de la sagesse qui dit ça. Qui aime bien, châtie bien, donc attention à ne pas chercher à plaire aux hommes. Nul ne peut plaire à deux maîtres à la fois, dit notre Seigneur. On ne peut pas plaire à la fois à Dieu et à Mammon. Ça veut dire on ne peut pas plaire à la fois à Dieu et au monde. Donc tous ceux qui cherchent à baptiser les maximes du monde avec l'eau bénite de l'Évangile, ils vont arriver à la perdition. On ne peut pas baptiser, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité les principes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les 10 commandements de Dieu et surtout les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et l'obéissance. On ne peut pas mettre ces 10 commandements et ces principes évangéliques au même niveau que la déclaration des droits de l'homme, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est deux choses absolument incompatibles. D'ailleurs, le prophète Siméon l'avait bien dit déjà à la Sainte Vierge. Quand il avait parlé d'un signe de contradiction, cet enfant, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ dans les bras de la très sainte Vierge Marie, sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, on est obligé de faire un choix ou pour la chute, c'est-à-dire qu'on le méprise à ce moment-là, c'est la chute en enfer, ou au contraire la résurrection si on l'accepte et qu'on le met dans notre vie de tous les jours par la vertu de charité, à ce moment-là c'est le salut. Donc attention à ces choses-là, ne cherchez pas, parents qui m'écoutez, cherchez pas à plaire à vos enfants, remplissez votre devoir d'état de parent. Notre Seigneur n'a proclamé sur la montagne que les béatitudes des bons, tandis que descendu dans la plaine, il prédit aussi les supplices des réprouvés, disent les pères, parce que les auditeurs, encore ignorants et grossiers, ont besoin d'être poussés dans la voie du bien par la crainte des châtiments, tandis qu'il suffit pour les parfaits de les inviter par l'attrait des récompenses. Donc n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, et parce qu'il nous aime, justement, il va en quelque sorte nous obliger à aller au ciel. Et si nous ne sommes pas capables d'aller au ciel par pur amour de Dieu, il va nous obliger à aller au ciel par crainte. Je vous rappelle la phrase des exercices de Saint Ignace dans le cinquième exercice. Si mes fautes me faisaient jamais oublier l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aida à ne point tomber dans le péché. C'est comme ça que les pères de l'Église nous parlent des peines de l'enfer d'ailleurs. En nous disant bien, j'aime beaucoup leurs deux expressions, ils disent que l'enfer est le grand missionnaire du ciel et l'enfer est une création de la miséricorde divine. Et c'est vrai, beaucoup de gens vont au ciel parce qu'ils ne veulent pas tomber en enfer. Certes, la contrition imparfaite, c'est pas l'idéal. On vise au-dessus, nous visons, en tant que catholique, on doit viser la contrition parfaite, c'est-à-dire le regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Mais si je ne suis pas capable de regretter mes péchés par amour du bon Dieu, il vaut mieux regretter ses péchés par crainte de l'enfer, ce qu'on appelle l'attrition, la contrition imparfaite, que de ne pas regretter ses péchés du tout. Et si l'unique moyen pour moi de rester en état de grâce est de craindre l'enfer, eh bien l'enfer m'aide à aller au ciel. Donc c'est pour cela que les pères disaient, c'est le grand missionnaire du ciel. Donc encore une fois, ne cherchons pas à plaire à nos enfants, que les prêtres ne cherchent pas, nous prêtres, ne cherchons pas à plaire à nos fidèles. Donc Saint Matthieu attire les peuples à la foi et à la vertu par la perspective des récompenses, tandis que Saint Luc cherche à les éloigner des crimes par la menace des châtiments. Donc Saint Matthieu va peut-être plus insister sur la miséricorde, alors qu'au contraire, Saint-Luc veut plus assister sur la justice. Mais n'oubliez pas que en notre Seigneur Jésus-Christ, justice et miséricorde sont unies. Il n'y a pas de justice sans miséricorde, il n'y a pas de miséricorde sans justice. La justice sans la miséricorde, ça devient la cruauté. La miséricorde sans la justice, ça devient de la faiblesse. Dans les deux cas, on s'éloigne de la voie divine. Et donc on voit très bien en notre Seigneur Jésus-Christ, justice et miséricorde sont comme les deux doigts de la même main. C'est bien ce qu'explique ici notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue avec les versets 31 à 33 du chapitre 6 de Saint Luc. Est-ce que vous voulez que les hommes vous fassent ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur, vous aussi pareillement. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi font cela. Le Père rappelle qu'il n'y a que deux voies qui conduisent à la vertu. La première, c'est s'abstenir du mal, et la deuxième, c'est faire le bien, mais les deux voies sont en fait communes. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Et l'absence de haine pour l'erreur est un signe que nous n'aimons pas la vérité. C'est facile de dire que nous aimons Dieu, mais notre absence de haine de l'erreur, disait Ernest Hello, à notre absence de haine de l'erreur, les gens verront que nous ne sommes pas de la vérité. Quelqu'un qui aime la vérité doit haïr le mal. Attention, on ne demande pas d'haïr le pécheur, on doit haïr le péché. Mais c'est justement un des crimes de l'Église de Vatican II, c'est d'avoir, Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps, un des crimes de Vatican II, c'est d'avoir supprimé la crainte de Dieu. Le problème, c'est que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc si on supprime la crainte de Dieu, on supprime le début de la sagesse, et en supprimant la crainte de Dieu, on supprime la sagesse. Donc on supprime le but de la vie, parce que la sagesse va nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Donc si je n'ai pas la crainte de Dieu, je serai incapable de comprendre où sont les choses importantes, et donc je vais m'attacher aux choses secondaires, c'est ce que fait le monde. Le monde cherche à remplir notre âme avec des choses secondaires, superficielles, pour qu'il n'y ait plus de place dans notre âme pour les choses importantes, les choses de première nécessité spirituelle. C'est pour cela que la première des choses qu'il faut faire quand on veut vraiment se convertir, c'est commencer par vider notre âme de toutes les choses secondaires qui sont sans importance pour le salut. Les saints avaient une formule, ils disaient, dès qu'ils avaient à prendre une décision importante, quid ad aeternitatem, c'est-à-dire en quoi cette décision que je vais prendre va m'aider à atteindre la fin pour laquelle j'ai été créé. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Et encore une fois, là, des textes magnifiques de Saint Thomas, de Saint Ignace de Loyola, qui l'explique bien, je vous lis ce passage, qu'on trouve dans le principe et fondement de Saint Ignace. Les autres choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire toutes les créatures, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. Il vient d'expliquer que l'homme est créé justement pour louer, honorer, servir Dieu, notre Seigneur, par son moyen de sauver son âme. D'où il suit que l'homme doit faire usage de ses créatures autant qu'elles le conduisent vers sa fin, qu'il doit s'en dégager autant qu'elles l'en détournent. C'est-à-dire, si les créatures autour de moi m'aident à aller au ciel, j'ai le droit de les utiliser. Si ces créatures sont un obstacle pour moi pour aller au ciel, je dois couper avec ces créatures. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, si ta main droite, ton pied droit, ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, coupe, arrache, jette loin, parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au ciel avec un seul pied, une seule main et un seul œil, plutôt que de tomber en enfer avec les deux mains, les deux pieds, les deux yeux. Et Saint Ignace conclut son principe et fondement en disant « Pour cela, il est donc nécessaire de nous rendre indifférents à l'égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que, de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la pauvreté, l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. » La mort, mais pas le péché, c'est ce que disaient les saints. Donc, à la fois s'abstenir du mal et en même temps faire le bien. C'est-à-dire, l'énergie qui nous aide à nous abstenir du mal, c'est l'amour du bien. Il ne peut pas y avoir d'amour de bien sans s'abstenir du mal. On ne peut pas prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ si on ne déteste pas le démon, ses pompes et ses œuvres. Passons à la page 5 sur le polycopier, verset 34 du chapitre 6 de Saint-Luc. « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. » Dans ce cas-là, c'est plus de la charité, c'est plus de la gentillesse, c'est du commerce. C'est l'échange d'une gentillesse pour une autre. Si je cherche à faire du bien qu'à ceux qui vont me rendre le bien que je leur fais, et qui vont me le rendre d'ailleurs souvent plus que ce que je n'ai fait moi-même, c'est du mercantilisme. On fait les choses de façon intéressée. Quand on sert notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le servir pour lui et pas pour nous. Donc on ne cherche pas les consolations de Dieu, on doit chercher le Dieu des consolations, c'est pas pareil. Même si Dieu nous donne des consolations pour nous aider à le suivre plus facilement. Avançons versets 35 à 36. Mais vous aimez vos ennemis, faites du bien, donnez beaucoup sans en rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Attention, quand notre Seigneur nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis, donnez beaucoup sans rien espérer, votre récompense sera grande », ça ne veut pas dire qu'il faut aimer les choses mauvaises que font les ennemis. On aime le pécheur, on n'aime pas le péché. On aime le pécheur, mais on doit détester le péché. Et on peut aller plus loin que ça en disant « Si je ne déteste pas le péché commis par le pécheur, je ne peux prétendre aimer le pécheur ». C'est précisément parce que j'aime le pécheur que j'empêche de faire du mal. Donc, sinon, c'est de la fausse charité. Imaginez que vous ayez un enfant qui vive dans le concubinage le plus complet avec sa maîtresse ou avec son concubin. Eh bien, c'est pas un acte d'amour que d'accepter la situation. Vous n'avez pas le droit. Vous devez, en tant que parent, garder l'amour pour votre fils ou pour votre fille, mais en même temps, vous ne pouvez pas accepter le fait qu'il vive dans le concubinage. Vous n'avez en aucun droit, en aucun cas, le droit de placer le fils concubin ou la fille concubine au même niveau que vos autres enfants, qui, eux, cherchent à vivre dans la grâce. Certes, même si votre fils et votre fille vivent dans le concubinage le plus complet, ils sont toujours vos enfants, il faut les aimer. Mais les aimer, ça veut dire quoi? Les aimer, ça ne veut pas dire d'aimer le péché dans lequel ils vivent. Les aimer, ça ne veut pas dire d'aimer la situation pécamineuse dans laquelle ils sont. Les aimer, c'est aider leur âme à monter au ciel. C'est pour ça qu'on aime nos enfants. Un père, une mère de famille aime ses enfants dans la mesure où il veut pour les enfants, pour ses enfants, ce qu'il y a de meilleur pour eux. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour les enfants? Vivre en état de grâce. Donc, si un père de famille ou une mère de famille laisse leurs enfants vivre dans le péché mortel sans rien faire pour les en retirer, ça prouve quoi? Ça prouve que ses parents n'ont plus d'amour pour leurs enfants. Saint Grégoire de Nicée, une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige. Selon Saint Grégoire de Nicée, celui qui tire un intérêt d'un prêt n'est qu'un usurier. En prêtant de l'argent, je me suis fait un ennemi et j'ai perdu un ami. Donc c'est, rappelez-vous que l'Église a toujours condamné l'usure. Vous allez me dire, mais l'usure est à la base de toutes les tractations commerciales aujourd'hui. C'est malheureusement vrai. Ça n'empêche pas que ça reste condamné par l'Église. Attention. La seule chose qui peut justifier le prêt à intérêt, c'est l'inflation. Bon, si vous prêtez une somme d'argent importante à quelqu'un et que vous savez que cette somme, entre le moment où vous la prêtez et le moment où vous allez la récupérer de la personne à qui vous l'avez prêtée, aura perdu 10% de sa valeur, donc dans ce cas-là, vous avez le droit de demander 10% en plus pour rentrer dans la perte que vous avez faite en prêtant cet argent à quelqu'un. Mais vous n'avez évidemment pas le droit de demander un intérêt. C'est ce que font toutes les banques actuellement, donc qui, par le système de l'usure, littéralement volent les gens en exigeant un prêt à intérêt sans justification. C'est pour ça que l'Église a toujours condamné l'usure. Au contraire, disent les pères, le pauvre reçoit le don, mais Dieu devient celui qui doit. Ce que je donne à un pauvre par amour de Dieu devient à la fois un don et un prêt. Un don, car je n'espère aucun retour ni intérêt, un prêt à cause de la bonté de Dieu qui récompensera hautement ceux qui ont aidé les pauvres, comme le Seigneur nous en assure. Votre récompense sera grande. L'un reçoit, c'est un autre qui s'oblige à payer ce qu'il doit, c'est-à-dire le centuple dans le temps présent et après cette vie, la vie éternelle. Quand on prête à Dieu, Dieu rend toujours avec intérêt, mais dans le bon sens du terme. Parce que Dieu a promis qu'il ne laisserait pas sans récompense un verre d'eau donné à un pauvre. Alors les pères font remarquer que la philosophie divise la justice, parce que c'est ce dont parle ici notre Seigneur, elle associe la justice et la miséricorde. La philosophie divise la justice en trois parties. L'une qui a Dieu pour objet, qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion, c'est une partie de la vertu de justice par laquelle on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est ça la vertu de religion. La seconde partie de la justice, c'est celle qui comprend les devoirs envers les parents et le reste du genre humain. C'est la vertu de piété, en fait. Et la troisième qui s'étend aux morts et nous oblige de leur rendre convenablement leur dernier devoir. Donc attention à remplir nos obligations par rapport au prochain. Et lorsque nous manquons gravement à nos obligations par rapport au prochain, eh bien, nous sommes tenus à restituer, parce qu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, à commencer par rendre à Dieu ce qui lui est dû. Comme on a tout reçu de Dieu, il faut d'abord commencer par tout donner à Dieu. Voilà les remarques ici des pères. L'humilité et la douceur sont à la colère ce que l'eau est au feu. Et si je jette de l'eau sur le feu, l'eau va éteindre le feu. De même, la douceur, l'humilité sont des vertus qui vont apaiser la colère, éteindre la colère. Quelle différence y a-t-il entre celui qui perce les murs pour s'emparer du bien qui ne lui appartient pas et celui qui s'approprie le gain illicite produit par l'argent qu'il a prêté? En Grèce, ce genre d'avarice est justement appelé enfantement à cause de sa malheureuse et coupable fécondité. Autre belle remarque des pères, ce n'est qu'avec le temps que les animaux grandissent et se reproduisent, mais à peine l'usure a pris naissance qu'elle devient féconde. Donc encore une fois, attention, ce n'est pas un péché pour quelqu'un de faire de l'argent, à condition qu'il fasse de l'argent à cause de son travail. Moi, j'ai connu, quand j'étais en Australie, on avait souvent des Chinois ou des Coréens qui venaient, surtout dans les années 80-90, ils venaient en Australie, et des Chinois qui venaient et qui arrivaient avec leur chemise sur le dos. Et ils travaillaient comme des fous. Toute la famille se mettait au travail, ils ouvraient des petits magasins pour réparer des ordinateurs ou des fast-food, des petits restaurants pour une nourriture rapide. Et tout le monde se met au travail dans le restaurant, à savoir la grand-mère, le grand-père, les parents, les enfants, dès qu'ils étaient en âge de travailler. Tout le monde travaillait et au bout d'un certain temps, ces gens-là arrivaient à avoir une certaine aisance financière. Ils l'avaient parfaitement mérité, ça ne me choque pas du tout. Par contre, il est certain que quand on voit des grosses multinationales avec on va citer le cas il n'y a pas longtemps d'un grand chef d'entreprise qui faisait 1 500 € par seconde, bon, et en soi, je dirais, s'il a vraiment beaucoup travaillé pour ça, c'est une chose, à condition que ses employés, surtout dans les pays du tiers-monde, ne soient pas payés avec des boutons de culotte, littéralement, c'est souvent le cas. Alors à ce moment-là, ça devient l'injustice. Attention, il ne faut pas oublier une chose qui est beaucoup trop oubliée, c'est que dans la liste des péchés qui crient vengeance contre Dieu, il n'y a pas simplement l'homosexualité et l'avortement. Je vous rappelle ce que dit le catéchisme dans ce domaine. Donc, il y a 4 péchés qui crient vengeance devant Dieu. Premier, c'est l'homicide volontaire, l'avortement. Deuxième, c'est le péché impur contre nature, c'est la sodomie, l'homosexualité. Mais il y a aussi l'oppression des pauvres et le fait de frustrer les ouvriers de leur juste salaire. Attention, et ça reste valable encore aujourd'hui. Et j'ai remarqué que très souvent, on pense aux deux premiers péchés qui crient vengeance contre Dieu, qu'on oublie le troisième et le quatrième. Ça fait partie de ces péchés qui sont gravissimes. Attention, donc dans le catéchisme de Saint Pédice, il insiste lourdement sur ces deux types de péchés qui ont une gravité toute particulière, les péchés contre le Saint-Esprit, qui placent l'âme dans une situation telle qu'elle ne peut pas vivre en état de grâce tant qu'elle est dans ce... Elle ne peut pas se sortir de ses péchés tant qu'elle reste dans cette situation, et les péchés qui crient vengeance contre Dieu. Donc, les péchés qui crient vengeance contre Dieu, je viens de les citer, il y en a 4, il y a 6 péchés contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit, désespérer de son salut, avoir la présomption de se sauver sans mérite, combattre la vérité connue, envier la grâce d'autrui, s'obstiner dans le péché et l'impénitence finale. Peut-être que le plus grave, c'est le premier, désespérer de son salut. Péchés contre l'espérance ne sont pas forcément les plus graves, mais sont les plus dangereux. N'oublions pas que le premier péché contre le Saint-Esprit, désespérer de son salut, ce fut le péché de Judas. Judas et Saint-Pierre ont tous les deux commis un péché grave en trahissant notre Seigneur. Mais Saint-Pierre a cru à la miséricorde du bon Dieu et que le bon Dieu était suffisamment grand en tant que Dieu de lui pardonner son péché. Il a obtenu le pardon de ses péchés, alors que le crime de Judas, c'est de s'être découragé en refusant de croire que Dieu était suffisamment puissant pour pardonner son péché. Donc il a voulu limiter le pouvoir de Dieu et est tombé dans ce désespoir de son propre salut. Et il a fini par se tuer. Et s'il avait cru la miséricorde du bon Dieu, il y aurait un Saint Judas aujourd'hui avec un Saint Pierre. Hein. Donc, je répète cette phrase des pères, ce n'est qu'avec le temps que les animaux grandissent et se reproduisent, mais à peine l'usure a pris naissance qu'elle devient féconde. Donc, encore une fois, l'usure est toujours un péché. Encore une fois, il n'y a que l'inflation qui permet de demander plus que ce qu'on a prêté. Autre remarque des pères, les animaux les plus précoces à se reproduire cessent aussi plutôt d'engendrer, mais l'argent des avares ne fait que se multiplier d'année en année. Les animaux, en transmettant à leurs petits la faculté d'engendrer, cessent eux-mêmes d'engendrer, mais l'argent des avares produit continuellement de nouveaux fruits et renouvelle les premiers. Et regardez, écoutez cette remarque des pères, travaillez, mettez-vous en service, mendiez enfin s'il le faut, tout est préférable à un emprunt usuraire. Et malheureusement, l'usure a fait un dégât énorme dans notre société. Toute notre société est fondée justement sur l'exploitation du capital. Encore une fois, attention, ce n'est pas la richesse qui en soi est condamnée par l'Église. L'Église n'a jamais condamné les gens riches. C'est pas un péché d'être riche, c'est un péché de mal utiliser ses richesses. Le bon Dieu a voulu des différences entre les gens. Le bon Dieu n'accepte pas l'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans la création de Dieu. Tous les hommes sont différents, chaque âme est différente, il y a des riches et des pauvres, mais les riches qui ont plus reçu ont l'obligation d'aider les pauvres. Versets 37 et 38. Ne jugez point, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Donnez, on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure pressée et secouée et qui débordera. Car la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré servira de mesure pour vous. Donc celui, disent les pères, qui juge sévèrement les fautes d'autrui n'obtiendrait jamais le pardon de ses propres fautes. Commençons par nous regarder dans une glace, comme on dit vulgairement. Voir ses propres péchés. Surtout essayer de voir son âme telle que Dieu la voit. C'est ça qui va être terrible au jour du jugement, au moment de notre jugement particulier, à l'instant de notre mort, c'est qu'on va, d'un seul coup, on va voir notre âme non pas telle que nous la voyons, telle que nous voulons la voir, en nous mettant des lunettes noires littéralement pour changer la véritable couleur de notre âme, mais au jour de notre mort, on va d'un seul coup voir notre âme telle que Dieu la voit. Et Dieu juge, non pas sur les apparences, Dieu juge sur les réalités. Dans le monde moderne, on est habitué à vivre dans les apparences. C'est la civilisation, l'idéalisme, la philosophie du monde moderne, c'est l'idéalisme, c'est le virtuel. On vit constamment dans le virtuel, totalement déconnecté de la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on va mourir. La réalité, c'est qu'au moment de notre mort, il y a une séparation entre notre corps et notre âme. Le corps va devenir la nourriture des vers dans un cercueil, dans le cimetière, et l'âme va être jugée par Dieu. À l'instant même de notre mort, à l'endroit même de notre mort. Donc il faut y penser. Et le jour de notre mort, on n'est pas jugé d'après notre conscience. Le jour de notre mort, on sera jugé d'après la conscience divine, la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné la loi de notre conscience. La loi des commandements, elle est pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire à Dieu au moment où on apparaît devant lui, eh bien j'ai mes propres lois, mon propre système de commandement qui est différent de celui que vous avez prétendu vouloir m'imposer, la loi des 10 commandements de Dieu. Moi j'ai mes propres commandements, je vous demande de me juger à partir de ma conception des commandements. Mais non, pas du tout. Nous serons jugés d'après la conscience divine et pas d'après notre conscience. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on entend des bêtises énormes sur ce sujet, parfois même de certains de nos fidèles qui nous disent « Mais monsieur l'abbé, on a le droit de suivre sa conscience. » Attention, à condition d'avoir une conscience droite. Si notre conscience est faussée, on n'a pas le droit de la suivre. Si je sais que ma conscience m'indique de faire des choses qui sont interdites par la loi divine, par la loi naturelle, je n'ai pas le droit de suivre ma conscience. Parce que la loi naturelle m'indique que je n'ai pas le droit de faire cet acte. Si une maman va tuer son bébé par le crime d'avortement, sa conscience lui dit que elle a le droit de le faire, elle a le droit de couper en rondelles son bébé dans son sein parce que le bébé la dérange, il y a un moment qui n'est pas prévu, eh bien, contre cette action-là, il y a la conscience divine qui dit « tu ne tueras pas ». Et donc on ne suit pas la conscience des gens, on suit la conscience de Dieu. pour ça que la liberté de conscience a toujours été, condamnée par l'Église. N'oubliez pas les grands textes du pape Pie IX, surtout 1864, Quanta Cura, lesquels il dit bien que la liberté de conscience est une liberté de perdition, une insanité. Vous allez me dire, mais le Concile Vatican II dit le contraire. C'est exact, le Concile Vatican II dit le contraire. C'est bien des raisons pour lesquelles le Concile de Vatican II n'est pas un concile catholique. Attention. Alors continuons ces explications des pères sur ce texte du chapitre 6 de Saint Luc. Ne jugez point, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez point, vous ne serez pas condamné. Pardonnez, on vous pardonnera. Donnez, on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, qui débordera. Car la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré servira de mesure pour vous. Donc si je suis dur avec le prochain, je risque d'avoir un juge qui sera dur avec moi. Si au contraire je suis miséricordieux avec le prochain, Dieu sera miséricordieux avec moi. Attention, encore une fois, la miséricorde ne doit pas être séparée de la justice. Être miséricordieux avec le prochain, ça ne veut pas dire d'être injuste. Si au nom de la miséricorde, vous acceptez que votre fils vive en concubinage avec sa maîtresse, ce n'est plus de la miséricorde, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Parce que Dieu a dit, tu ne désireras pas la femme de ton prochain avec convoitise, tu ne désireras pas avec convoitise la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'impureté. Les 6e et 9e commandements, ils sont là pour tous les hommes, y compris pour les non-catholiques. Puisque les non-catholiques, eux aussi, ont été créés par Dieu. C'est ça qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Hein. Il n'est pas simplement roi dans la sacristie, dans la chapelle. Dans le culte catholique, puisque Dieu a créé tous les hommes sont créatures de Dieu, et tous les hommes, donc Dieu a un droit strict sur tous les hommes parce qu'il est leur créateur et parce qu'il est leur rédempteur. Les musulmans, ils n'ont pas été créés par Mahomet, les musulmans, ils ont été créés par Dieu, le même Dieu qui vous a créé vous et moi. Et les musulmans, ils seront jugés par Dieu selon la conscience divine et pas selon la conscience de Mahomet le jour où ils vont passer à trépas, attention. Celui qui juge donc sévèrement les fautes d'autrui, disent les pères, n'obtiendra jamais le pardon de ses propres fautes. Celui qui est doux et miséricordieux pour les autres aura beaucoup moins à craindre pour ses péchés. Mais celui qui est dur et sévère pour ses frères ajoute à ses propres crimes. Il faut surtout avoir cette douceur pour aider les gens, les autres, le prochain, à monter vers Dieu. Essentiellement les gens dont nous avons la charge. C'est la gravité d'avoir charge d'âme, comme on dit. Charge d'âme, ça veut dire qu'on est responsable pour l'âme du prochain. Nous ne sommes pas responsables pour toutes les âmes des gens qui nous entourent, mais nous sommes responsables au moins en partie pour les âmes dont nous avons la charge. On a une responsabilité pour sa propre âme, c'est évident. Si votre fils vit en concubinage, il vit d'abord dans un péché gravissime contre la loi divine. Il se moque du 6e commandement, du 9e commandement. Bon, mais si en tant que mère de famille, vous acceptez la situation, vous êtes coupable d'un péché de scandale, parce que vous poussez votre fils à rester dans cette situation pécamineuse dans laquelle il s'est mis, au lieu de chercher à le sortir de là. Et si le chef de famille laisse son épouse et ses enfants dans cette fausse conception de la vie, et que vous, en tant que chef de famille, vous savez très bien que votre enfant vit en un tas de péchés mortels et vous ne faites rien pour l'en sortir, vous êtes aussi responsable, et vous serez jugé à part Dieu beaucoup plus sévèrement parce que vous avez charge d'âme. N'oublions pas que quand un père et une mère de famille meurent ensemble dans un accident de voiture, par exemple, c'est d'abord le père qui est jugé. Parce que le père est plus responsable parce qu'il est chef de famille. Je donne souvent cet exemple qui fait parfois un peu hurler les gens, mais je le donne quand même, hein, parce qu'il faut le donner en tant que prêtre. Je donne souvent l'exemple d'une jeune fille qui va se promener, il va faire ses courses le cours ce samedi dans une grande surface habillée comme une prostituée. Bon, il est évident qu'elle est responsable de ce qu'elle fait, de toutes les mauvaises pensées qui vont être provoquées par son habillement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est exact, mais il ne faut pas oublier que la maman qui sait que sa fille s'habille comme ça et qui dit rien est encore plus responsable que la fille. Et le père de famille qui est chef de famille, qui sait que sa femme ne dit rien, que son épouse ne dit rien à sa fille qui va s'habiller, qui va faire ses courses en étant habillée comme une prostituée, et le père de famille est encore plus responsable. Donc il y a 3 degrés de gravité, et celui qui a le péché le plus grave, c'est le père de famille. puis la mère de famille, puis la jeune fille. Ça n'enlève pas en aucun cas, bien sûr, la gravité du péché de la fille. C'est toujours un péché grave. Mais attention, prenons nos responsabilités. Et on peut aller plus haut. Le prêtre qui sait que ses fidèles, ou certains de ses fidèles vivent dans le péché mortel et qui fait rien pour les en tirer, il est gravement coupable, il est encore plus coupable parce qu'il est prêtre et donc il a charge d'âme, encore plus que le père de famille. Alors avançons. Page 6. En haut de la page, Saint-Luc chapitre 6, versets 39 et 40. Il a proposé aussi cette comparaison. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais tout disciple sera parfait s'il est comme son maître. Alors les pères font remarquer que la connaissance de soi-même est de la dernière importance. C'est Saint Ignace de Loyola qui, dans l'ordre des Jésuites, insistait beaucoup sur la connaissance de soi-même. Donc il exigeait que ses moines, ses prêtres, ses postulants, ses novices, dans l'ordre des Jésuites, l'ordre de la compagnie de Jésus, commencent par s'étudier eux-mêmes, pour avoir la connaissance d'eux-mêmes. Et donc il exigeait, comme base de la vie spirituelle, l'examen particulier. L'examen particulier, c'est quoi? C'est l'examen de conscience du défaut particulier. On a tous un défaut particulier qui, en général, découle de notre tempérament. Si je suis un colérique ou un sanguin ou un phlegmatique ou un mélancolique, j'aurai un défaut particulier qui sera différent à un colérique. En général, il y a un défaut particulier qui va tourner autour de l'impatience et de la colère. Le sanguin va avoir un défaut particulier qui va tourner autour du mensonge et du vol en général. Le mélancolique a toujours le même défaut particulier. En général, c'est la bouderie. La bouderie et le phlegmatique, son défaut particulier tourne autour de la paresse. Et donc, il faut examiner, avoir le courage tous les soirs de faire ce qu'on appelle l'examen particulier. C'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup quand je prêche les retraites. Le vendredi, je donne une petite conférence sur les résolutions. J'insiste beaucoup sur ce que j'appelle le double examen de conscience. Et vous devez faire le soir un double examen de conscience. D'abord l'examen de conscience des péchés de la journée, ce qu'on appelle l'examen général. Et aussi l'examen de conscience qui regarde votre défaut particulier. Défaut particulier, c'est pas un gros péché en général, c'est un péché véniel. Mais un péché véniel qu'on commet très souvent. Le problème, c'est qu'on connaît très bien le défaut particulier des autres et on ne connaît pas le sien propre. Si je vous demande quel est le défaut particulier de votre épouse, vous allez me répondre immédiatement. Mais si je vous demande quel est votre propre défaut particulier, vous me regardez avec des yeux d'ange en me disant que vous ne savez pas. Donc attention à connaître son défaut particulier. Une fois qu'on connaît son défaut particulier, il faut surveiller un petit peu ça. Le mieux, c'est d'avoir un petit carnet. Et éventuellement, le soir, de noter, si un petit calendrier, on note le nombre de fois où je suis tombé dans mon défaut particulier. Par exemple, si mon défaut particulier, c'est la patience, je note combien de fois aujourd'hui j'étais impatient. Et si on voit que le nombre de fautes, de chutes contre le défaut particulier augmente, ça veut dire en général qu'on a besoin de se confesser. Si au contraire, le défaut particulier diminue, le nombre de chutes contre le défaut particulier diminue, c'est un bon signe. Vous voyez, donc attention à avoir cette connaissance de soi-même. L'œil, disent les pères, qui considèrent les choses extérieures, ne peut voir ce qui se passe en lui-même. Ainsi en est-il de notre esprit. Lorsqu'il est prompt à juger les péchés d'autrui, il devient lent à découvrir ses propres défauts. Médecin, soigne-toi toi-même. Et commençons par nous regarder dans une glace avant de juger le prochain. Et voyons nos propres défaillances avant de vouloir juger les défaillances des autres. Continuez versets 41 à 45 du chapitre 6 de Saint-Luc. Pourquoi voyez-vous le fétu dans l'œil de votre frère sans apercevoir la poutre qui est dans votre œil? Ou comment pouvez-vous dire à votre frère, « Frère, laissez-moi ôter le fétu qui est dans votre œil, vous qui ne voyez pas la poutre qui est dans le vôtre. » Hypocrite, ôtez d'abord la poutre qui est dans votre œil, et ensuite vous verrez comment vous pourrez ôter le fétu de l'œil de votre frère. Car un arbre n'est pas bon s'il produit de mauvais fruits, et un arbre n'est pas mauvais s'il produit de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille point de figues sur les épines, on ne vendange pas le raisin sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc attention à l'hypocrisie dans notre comportement. Avant de juger les autres, commençons par nous juger nous-mêmes. Voyons nos propres défaillances avant de voir les défaillances du prochain. Avant de voir, encore une fois, la paille qui est dans l'œil du prochain, commençons par regarder la poutre qui est dans mon propre œil. Voilà ce que disent les pères sur ces versets. La nature de l'arbre s'appelle en nous l'affection. Aussi peut-elle, ce qui est impossible à un arbre mauvais, c'est de produire de bons fruits. Les figuiers ont donné leur première figue. Les fruits qu'ils ont donnés au temps de la synagogue n'étaient ni mûrs, ni durables, ni utiles. Notre vie ne parvient pas à sa maturité dans ce corps mortel, mais seulement dans sa résurrection. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église de l'Ancien Testament, qui était une église vivifiante et vivifiée de l'Ancien Testament, est devenue, dans le Nouveau Testament, une église mortifère. Attention, pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, l'Église de l'Ancien Testament pouvait donner de bons fruits, mais l'Église de l'Ancien Testament a disparu avec la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir, pour purifier justement, remplacer la religion de l'Ancien Testament par une religion nouvelle qui est la religion catholique. Et donc quelqu'un qui continuerait de vouloir absolument remplir toutes les prescriptions juives de l'Ancien Testament prêcherait gravement contre la charité divine. Et attention, attention à ça. Nous devons donc rejeter loin de nous les sollicitudes de la terre qui déchirent l'âme et consument l'esprit, afin d'obtenir par nos soins assidus des fruits d'une maturité parfaite. Lorsque, ici, au verset 44, Saint Luc parle des épines. Les épines, disent les pères, représentent l'attraction des choses matérielles. De même que quelqu'un qui est dans les épines ne peut plus bouger sans que les épines lui rentrent encore plus profondément dans les muscles, dans la peau. De la même façon, celui qui est dans l'adoration des choses matérielles va devenir de plus en plus esclave de celui qu'il sert. Si je sers les choses matérielles, je deviens esclave de ces choses et je suis de plus en plus, je suis comme un homme qui est pris dans les épines et ces épines s'enfoncent de plus en plus dans mon âme. Je deviens de plus en plus attaché à ces choses matérielles et donc je suis incapable de m'élever vers le bon Dieu parce que je suis trop englué aux choses de ce monde. Le péché ne peut faire produire aucun fruit à l'âme qui, semblable aux raisins, se corrompt si elle est trop près de la terre et ne peut mûrir que dans les hauteurs. Personne ne peut échapper à la damnation de la chair s'il n'est racheté par Jésus-Christ qui, comme le raisin, était suspendu sur le bois. Une comparaison très simple qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Hein, tous ceux qui s'occupent de jardin connaissent bien les choses. Si vous laissez un plant de tomates sans mettre un tuteur, les tomates vont apparaître, elles vont rester sur le sol, elles vont attraper la maladie tout de suite, le mildiou, je sais trop quoi, elles vont attraper la pourriture tout de suite qui va venir de l'humidité de la terre parce que justement elles sont en contact avec la terre. Si au contraire vous attachez le plant de tomates qui grimpe, qui grandit à un tuteur, planté à côté de ce plant de tomate, eh bien, ça va permettre aux tomates de se développer sans contact avec la terre, donc de ne pas pourrir, de pouvoir les utiliser. Donc, une âme qui n'a pas de discipline, c'est comme un plant de tomate sans tuteur. Tuteur est nécessaire au salut de la tomate pour que la tomate puisse mûrir normalement. Eh bien, de la même façon, si j'ai pas de tuteur spirituel, j'ai pas de volonté propre, j'en fais qu'à ma tête à longueur de journée, je suis comme une tomate sans tuteur, un plant tomate sans tuteur, et donc je vais être pourri par toutes les attractions du monde. Donc personne ne peut échapper à la damnation de la chair s'il n'est racheté par Jésus-Christ, qui comme le raisin était suspendu sur le bois. Donc il y a une comparaison qui est faite là avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « quand je serai élevé de terre sur la croix, j'attirerai tout à moi ». Notre Seigneur Jésus-Christ est élevé de terre pour bien nous montrer que par sa mort, il se coupe justement des choses matérielles, des choses de ce monde. Au contraire, celui qui reste avec les deux pieds sur la terre, qui ne veut pas lever les yeux vers le ciel, eh bien, c'est celui qui est tellement attaché aux choses matérielles qu'il est incapable de s'en détacher, il devient esclave de ces choses matérielles. Donc les pères expliquent, là, les épines et les ronces, dont parle le texte sacré qu'on commente là, les épines et les ronces signifient les soucis du siècle et les atteintes perçantes des vices, tandis que les figues et les raisins représentent au contraire les douceurs de la vie nouvelle et l'ardeur de la charité. Donc les épines et les ronces empêchent le développement normal des fruits. Rappelez-vous la parabole du semeur, donc la graine qui tombe sur le chemin et qui est dévoré par les animaux, piétiné par les passants, la graine qui tombe sur le côté du chemin, dans un petit caniveau qui est ce côté du chemin, il y a un peu d'humidité, alors ça commence à germer, mais il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez d'humidité finalement, et la graine va pas pouvoir se développer, va vite dépérir. Et puis il y a la graine qui va tomber sur le côté du chemin dans les ronces. Bon, il y a peut-être un peu plus de terre, mais les ronces empêchent le développement normal de cette graine qui va pas pouvoir donner du fruit. Et au contraire, la graine qui tombe dans le champ va pouvoir donner du fruit. Notre Seigneur Jésus-Christ fait bien remarquer que quand la graine tombe dans le champ, elle va donner du fruit différent, soit du 30%, soit du 60%, soit du 100%, en fonction de ce que le bon Dieu a mis dans nos âmes. Quand le bon Dieu nous a donné une âme qui est supposée donner du 30%, si j'ai donné du 30%, le bon Dieu est content et satisfait avec notre prestation, parce que c'est ce qu'il avait prévu pour nous. Mais si le bon Dieu a prévu que cette âme devait donner du 60% et qu'elle n'en donne que 30%, eh bien le bon Dieu ne sera pas satisfait avec cette âme parce qu'elle n'a pas donné ce qu'elle devait donner. Il ne faut pas se dire, ah mais mon voisin il a donné que 30%, donc moi je donne 30%, donc c'est l'égalité, donc je vais recevoir la même récompense que le voisin, pas du tout, parce que le voisin, peut-être qu'il avait une âme qui était supposée que de donner du fruit à 30%, donc il a donné 30%, il a rempli son contrat avec le bon Dieu. Par contre, moi je devais donner 60%, j'en donne que 30%, Dieu sera non satisfait avec moi, et je serai condamné aux pleurs et aux grincements de dents. Attention à ça. Donc l'âme qui est encore courbée sous le poids des habitudes du vieil homme peut bien avoir l'apparence de la fécondité, mais ne peut produire des fruits de l'homme. Donc c'est comme une plante, si vous voulez, qui a de la verdure, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits, pourquoi? Parce qu'il y a, parce que les fleurs sont tombées, ont été gelées par la froidure, ou parce que le jardinier s'est pas suffisamment occupé de ce plan, et les fleurs n'ont rien donné. Voilà. Autre remarque des pères, de même que la branche féconde de la vigne s'appuie sans là ce buisson, de sorte que les figues et les raisins représentent, de sorte que les épines supportent et conservent pour l'usage de l'homme un fruit qui n'est pas le leur, ainsi les paroles et les actions des méchants peuvent quelquefois être utiles au bon, ce qui doit être attribué non à la volonté des méchants, mais au dessein providentiel de Dieu qui sait tirer le bien du mal. S'il n'y avait pas eu de persécuteurs au premier siècle de l'Église, mais il n'y aurait pas eu de martyrs. Et aujourd'hui, on a une persécution terrible, terrible, de plus en plus terrible. Regardez ce qui se passe actuellement. Le jour où j'enregistre ce cours, c'est aujourd'hui le 3 octobre, eh bien, Macron vient de publier un texte pour essayer d'annoncer qu'il va supprimer tout l'enseignement possible à la maison. Bon, c'est sûr que c'est des persécutions qui vont devenir de plus en plus terribles, ça va devenir de plus en plus épouvantable pour les familles catholiques d'élever leurs enfants et les préserver la corruption qu'il y a dans la plupart des écoles. Mais le bon Dieu va nous donner des grâces. Je ne sais pas exactement comment, ni dans quelles circonstances il va nous donner des grâces, mais il est obligé de nous donner des grâces spéciales, donner des grâces spéciales aux enfants, pour que les enfants arrivent à tenir le coup malgré la corruption dans laquelle ils sont plongés par la force des choses. On vit dans une poubelle aujourd'hui. Eh bien, le bon Dieu est capable de faire fleurir une rose dans une poubelle. Une poubelle, bien certes, il faut protéger les enfants au maximum, mais il ne faut pas non plus oublier que Dieu est tout puissant et est suffisamment puissant pour préserver un enfant de la corruption. Si malheureusement, je ne peux plus, en tant que parent, préserver moi-même cet enfant parce que ils m'ont mis en prison et qu'ils m'ont pris les enfants et que les enfants sont plus sous ma coupe. Malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer de plus en plus. On sent cela venir de plus en plus. Il n'y a pas simplement que les parents qui sont visés. Nous, les prêtres, on va être visés aussi très vite. Dès qu'on va pouvoir refuser l'absolution à quelqu'un qui vit dans les vices contre nature et qu'il a enregistré la conversation, le gars va pouvoir aller directement à la police et les prêtres vont être mis en prison aussi parce qu'ils refusent la nouvelle religion de la République laïque. Donc rappelez-vous ce que disent les pères, Dieu est suffisamment puissant pour tirer le bien du mal. Dieu est capable, comme disaient les Américains, Dieu est capable d'écrire droit avec des lignes courbes. Les pères font remarquer que le trésor du cœur est comme la racine de l'arbre. Celui donc qui possède dans son cœur un trésor de patience et d'amour parfait produit des fruits excellents en aimant ses ennemis, en pratiquant tous les divins enseignements qui précèdent. Mais celui qui n'a dans son cœur qu'un trésor de méchanceté agit d'une manière tout opposée. C'est pour ça que notre Seigneur dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc la source est beaucoup plus importante que le ruisseau. Donc il importe que notre source soit pure, et si notre source est pure, à ce moment-là, l'eau du ruisseau sera pure. Et plus on remonte vers la source, plus on va retrouver la pureté. Et la source, c'est quoi? La source, c'est les sacrements. D'où l'importance de la confession, l'importance de la communion pour justement pouvoir donner à la suite de cette aide surnaturelle qu'on reçoit par les sacrements, pouvoir donner des bons fruits et transmettre à nos enfants des bons fruits pour qu'ils soient vraiment nourris par ces bons fruits. Passons à la page 7 du polycopier. Versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à quoi il ressemble. Il ressemble à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur la pierre. L'inondation étant survenue, le torrent s'est précipité sur cette maison et n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur la pierre. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. Et vous, ce qu'a dit notre Seigneur, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui ira au ciel, mais celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, c'est-à-dire celui qui écoute la parole de Dieu, ça c'est la foi, qui la met en pratique, c'est la charité, c'est-à-dire la forme de la foi. Une foi sans charité, c'est une foi morte, une foi informe, une foi au contraire illuminée par la charité, devant une foi qui va donner des fruits, et des fruits qui vont mûrir. Une foi sans charité, c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, peut-être des fleurs, mais aucun fruit, parce que les fleurs tombent. Donc, attention à ça. Posons-nous la question, est-ce que j'ai construit mon âme sur le roc, ou est-ce qu'au contraire, j'ai construit mon âme sur le sable? Alors, j'ai construit la maison sur le roc, ça va être solide, le démon ne pourra rien faire, le vent peut souffler, le torrent peut, la pluie peut frapper la maison de toutes ses forces, la maison ne bougera pas parce qu'elle est fondée sur le roc. Si au contraire, j'ai fondé ma maison sur le sable, sable de ma volonté propre, par exemple, eh bien, le torrent va se précipiter contre la maison, le vent va souffler, tout va partir, tout va s'envoler. Pourquoi vous glorifiez-vous de produire les feuilles des louanges de Dieu, vous qui ne produisez aucun fruit de bonnes œuvres? Celui qui a le souverain domaine sur toute la nature a droit au nom de la chose et au nom et à la chose exprimée par le nom. Donc le bon Dieu n'attend pas simplement des fruits, des feuilles pardon, et des fleurs, il attend aussi des fruits et des fruits mûrs. C'est un fruit acide qui grésille sous la dent parce que le fruit n'est pas mûr. Mon Dieu ne peut rien faire d'un fruit comme ça, il veut un fruit mûr. Alors, le Père explique que cette maison qui est fondée sur la pierre, c'est l'âme qui est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que cette pierre, c'est Jésus-Christ. Le roc était le Christ, creusé bien avant, c'est à l'aide des préceptes de l'humilité, enlever du cœur des fidèles tout ce qui est terrestre, afin qu'ils servent Dieu pour des motifs tous spirituels. Poser le fondement sur la pierre, c'est donc s'appuyer sur la foi de Jésus-Christ pour demeurer ferme dans l'adversité, soit qu'elle vienne des hommes, soit qu'elle vienne de Dieu. Donc le Dieu donne une dureté, si vous voulez, à la pierre. Et au contraire, si je n'ai pas Dieu en moi, si je n'ai pas notre Seigneur Jésus-Christ en moi, c'est-à-dire si je n'ai pas la vertu de charité en moi, eh bien j'ai fondé mon âme sur le sable, un sable mouvant, je vais m'enfoncer, parce qu'il n'y a pas de consistance. Donc cette pierre, qui est le fondement de l'âme, représente la vertu de charité. La vertu de charité, c'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est charité. Deus caritas est, rappelez-vous la formule. Donc le fondement de la maison, ce rocher qui représente le fondement de la maison, le fondement de cette maison, c'est l'intention, disent les pères, de mener une vie vertueuse que le parfait disciple conçoit et place dans son âme pour accomplir finalement les préceptes de Jésus-Christ. Ça, c'est la vertu de charité, attention. La foi, c'est pour croire, l'espérance pour prier, mais la charité, c'est pour obéir à la loi du bon Dieu. La charité, c'est quoi? La charité, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Si je connais par cœur, par la foi, la loi du bon Dieu, mais que je la mets pas en pratique parce que je vis pas dans la vertu de charité selon ses commandements, je suis un hypocrite devant Dieu. Donc le fondement de toutes les vertus est l'obéissance au commandement de Dieu, ça veut dire que le fondement de toutes les vertus est la vertu de charité. Parce que l'obéissance au commandement de Dieu, c'est la vertu de charité. Obéissance, donc, qui fait que la maison que nous bâtissons ne peut être ébranlée ni par le torrent impétueux, c'est les passions, ça, ni par la violence des esprits de malice, ni par les eaux entraînantes du monde, ni par les disputes ténébreuses des hérétiques. Ma maison est fondée sur le roc. Si j'ai la vertu de charité en moi, rappelez-vous l'expression de saint Paul, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui, une cloche qui retentit au loin, puis au bout de quelques secondes, on n'entend plus rien du tout. Parce que le vent a dissipé le son. Au contraire, celui qui fonde sa vie de tous les jours sur la vertu de charité va avoir à ce moment-là une foi qui devient formée, et cette foi formée devient comme un tuteur, justement, qui va donner pouvoir permettre aux plantes tomates qui poussent le long de ce tuteur de donner des fruits qui vont mûrir normalement au soleil. Là, il y a une belle phrase des pères. Donc, ce débordement, donc ce torrent qui se précipite sur la maison représente soit l'influence des esprits immondes, l'influence du démon, par l'agitation des méchants, par le trouble de l'âme ou de la lâcher à toutes les tentations. Donc plus les hommes mettent leur confiance dans leur propre force, plus aussi leur chute est grande, et plus ils s'appuient sur la pierre invincible, plus ils sont inébranlables. Cette pierre invincible, c'est la vertu de charité. Donc la pierre, c'est le Christ. Le Christ en nous vit en nous par la vertu de charité. Le Christ ne vit pas en nous par la vertu de foi. Puisque le démon peut avoir le démon nous dit saint Jacques, croit et tremble. Donc c'est pas la vertu de foi qui fait vivre l'âme, c'est la vertu de charité. Et la vertu de foi sans la vertu de charité, c'est une foi qui est en train de mourir, qui est moribonde, qui va mourir, c'est une foi informe, dit saint Thomas d'Aquin. Au contraire, si je m'appuie sur la pierre invincible qu'est le Christ, à ce moment-là, le démon peut plus rien faire contre moi. Donc c'est ce débordement représente soit l'influence directe du démon, soit l'agitation des méchants du monde, soit les troubles intérieurs. Un débordement, par exemple, ça peut être tout simplement une grosse tentation, ça peut être une désolation. J'ai repéré que le démon est autour de moi parce que je vois en moi cette agitation, ce trouble provoqué par la tristesse, par la confusion, par l'aveuglement spirituel, la cécité, et par l'attraction vers les choses mondaines, vers les choses de ce monde, vers les choses laides. Si au contraire j'ai la charité en moi, à ce moment-là, je serai sous l'influence de la véritable joie, de la paix, de la lumière, et je serai attiré vers les choses belles, les choses surnaturelles, les choses de Dieu. Donc plus mon âme s'appuie sur la pierre invincible qui est la vertu de charité, plus mon âme devient inébranlable. Le démon ne peut rien faire contre une âme qui vit en état de charité. Première chose que va faire le démon pour essayer de détruire une âme qui vit dans la charité, c'est d'enlever la charité de cette âme. À ce moment-là, dès que l'âme a perdu la vertu de charité, la pierre devient comme un sable mouvant et qui va évidemment, dans laquelle la personne va s'enfoncer immédiatement parce qu'il n'y a plus de fondement sous ses pieds. Donc le monde qui est tout entier fondé sur le malin esprit est la maison du démon. Il l'a bâti sur la terre. Parce qu'il détourne du ciel pour les ramener vers la terre, ceux qui se rendent ses esclaves. Ils bâtissent sans fondement parce que le péché n'a pas de fondement. Encore une fois, ce fondement, c'est la vertu de charité. Si je n'ai pas la vertu de charité, j'ai pas de fondement. Si j'ai pas de fondement, ben à ce moment-là, ma maison est fondée et n'est pas fondée justement sur une fondation. Par définition, elle est fondée sur rien du tout et ça devient comme un sable mouvant. Quand on tombe dans les sables mouvants, on s'enfonce, et plus on remue pour essayer de se sortir de ce sable mouvant, plus on s'enfonce. Donc il faut que quelqu'un à l'extérieur nous tende une branche ou une corde pour pouvoir nous en sortir. Alors, d'autres explications des pères, par ce fleuve qui se précipite avec violence contre la maison, on peut entendre, disent les pères aussi, les suites du jugement dernier. Alors que l'une et l'autre de ces deux maisons étant détruites, les impies iront à l'éternel supplice et les justes dans la vie éternelle. Quand on passe du temps à l'éternité, on passe dans une éternité. Il est nécessaire que nous tombions dans l'une ou l'autre éternité. Soit une éternité de malheur, si j'ai le malheur de mourir, de passer du temps à l'éternité en état de péché mortel, soit une éternité de bonheur, si j'ai le bonheur, justement, de mourir, de passer du temps à l'éternité en état de grâce. Puisque une fois que je suis dans l'éternité, on ne peut plus changer. Il faut du temps pour changer. Plus de temps, plus de passage possible de la puissance à l'acte, donc plus de mouvement possible. Je ne peux plus changer mon état d'âme si je suis hors du temps. Tant que je suis dans le temps, je peux changer. Je peux, avec la grâce de mon Dieu, faire une bonne confession, retrouver l'état de grâce. Et si je suis hors du temps, je suis dans l'éternité. L'éternité, par définition, c'est quoi? C'est l'absence de temps. Donc, tant que je suis dans l'éternité, je ne peux rien changer. Donc, tel que je tombe dans l'éternité, tel je reste. Si je tombe dans l'éternité en ennemi de Dieu, je reste ennemi de Dieu pour toute l'éternité. Si je tombe dans l'éternité en tant qu'ami de Dieu, je reste ami de Dieu pendant toute l'éternité. Cela, donc, bâtissent sur la terre sans aucun fondement ceux qui posent sur le sable mouvant du doute et des opinions humaines le fondement de l'édifice spirituel que quelques gouttes de tentation suffisent pour en renverser. Donc, c'est ce vent violent qui se précipite contre la maison, ce torrent qui se précipite contre la maison qui va tout renverser parce que la maison a été construite sur le sable. Ce sont aussi les tentations, les péchés en général. C'est tout ce qui détruit la vertu de charité. Alors attention donc à ne pas oublier que la chose la plus importante dans ma vie, c'est d'abord de vivre un état de grâce. Si je ne vis pas en état de grâce, comme si je fais des tas de choses extraordinaires, si je ne vis pas en état de grâce, je perds mon temps. Donc voilà, nous avons terminé le chapitre 6, et la prochaine fois, Dieu aidant, nous commençons le chapitre 7 de Saint-Luc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.